On a tous un téléphone portable dans la poche, un ordinateur à la maison ou au bureau. On est tous connectés, surfant, chattant, échangeant des mails sur une, voire plusieurs messageries, multipliant les réseaux. Le net est partout. La toile, comme on l'appelait à ses débuts, s'est étendue. On y communique, on y achète des biens, on y partage ses photos, sa vie professionnelle et personnelle, mêlant parfois mails publics et privés. Face à son écran, on se croit isolé, voire protégé. Il n'en est rien. Le nombre de cyberattaques dans le monde ne cesse de croître. Premier pays ciblé, les États-Unis. Et les pertes se comptent en milliards de dollars chaque année. Mais au fait, faisons-nous le nécessaire pour nous protéger ? Pour le savoir, PwC a mené l'enquête. Je suis Raphaël Duchemin et nous ouvrons un dossier très sensible ensemble, celui de la cybersécurité.
PwC, en direct.
Se défendre contre l'ennemi invisible, voilà aujourd'hui à quoi sont confrontées de par le monde les entreprises. Cette guerre, qui ne dit pas son nom, c'est celle de la sécurité, de la cybersécurité. Or, l'assaillant avance masqué et bien souvent, la victime se croit à l'abri. Pense avoir pris suffisamment de précautions pour parer les coups, elle a tort. Une attaque de ransomware a lieu toutes les 10 secondes. 80% des attaques sont du phishing, 90% des logiciels malveillants sont dus à nos courriers électroniques. Pendant 2 mois, PwC Research a mené des investigations. Ce sont pas moins de 3602 dirigeants d'entreprises qui ont donc été interrogés. Qui sont-ils et ont-ils la même perception du problème ? Nous allons tout savoir. Bonjour Philippe Trochot.
Bonjour.
Vous êtes Chief Technology and Product Officer. Ce qui est frappant quand on regarde le résultat de cette étude, c'est finalement, à première vue, la disparité. D'abord géographique, selon l'endroit où l'on travaille sur la planète, on est finalement plus ou moins éduqué à cette notion de cyberdanger et donc de cyberdéfense. On est différent quand on est aux États-Unis, en Europe de l'Ouest ou quand on est ailleurs ?
On est différent, mais en réalité, c'est un phénomène mondial, en fait. Les attaquants attaquent autant qu'ils peuvent et ils n'ont pas de nationalité ni de géographie. En revanche, il y a des pays qui ont quand même plus investi que d'autres dans la technologie. Donc, plus on investit dans la technologie, plus on s'expose. Ce qu'on peut noter par rapport à cet investissement dans la technologie, c'est que finalement, on n'a encore rien vu de nos sociétés ou de nos entreprises digitales. Aujourd'hui, on dépense à peu près au niveau mondial 5 000 milliards de dollars dans la technologie. D'ici 5 ans, on sera à un niveau de 10 000 milliards. Donc même si on pense être encore très technologique, sous l'effet conjugué notamment du déploiement de l'intelligence artificielle, des réseaux de 5G, on va avoir une courbe exponentielle dans l'investissement technologique, ce qui ne fera que renforcer notre exposition au risque cyber qui, comme on le disait, est maintenant un phénomène mondial bien connu, qui effectivement est probablement un peu moins bien recensé en Asie qu'en Europe ou aux États-Unis.
En fonction du secteur d'activité dans lequel on se trouve, on est aussi plus ou moins finalement averti des risques. Assez logiquement, dans les médias, les télécoms, on a pris la mesure. Moins, par exemple, dans les administrations. Et pourtant, la fuite de données y est tout aussi délicate à gérer.
Absolument. On peut essayer de segmenter finalement les cibles plutôt par taille d'entreprise ou taille d'administration. Autrement dit, les grandes entreprises, elles ont pris conscience il y a un peu plus de 10 ans maintenant, finalement, de ce sujet. Elles ont même été souvent poussées par leurs administrateurs, voire par leurs investisseurs, à améliorer leur niveau de cybersécurité. C'est un paysage qui est très différent lorsqu'on regarde les petites entreprises ou les entreprises de taille moyenne ou les petites administrations. J'entends par là les mairies, les petits hôpitaux, parce que ce segment-là n'a pas ou a très difficilement accès à la compétence, en fait, et n'est pas forcément au cœur des stratégies des acteurs de la technologie cyber. Plus vous êtes petit, plus finalement vous êtes un peu dépourvu, et on le voit quand on sonde les dirigeants de petites entreprises, ils sont un peu dans le dans le syndrome de Tchernobyl. C'est-à-dire ils lisent les journaux où ils s'exposent aux médias comme tout le monde, donc ils ont conscience du risque cyber, mais ils pensent que ça ne les concerne pas, en fait.
Oui, donc ce qui joue, c'est la taille de l'entreprise et peut-être aussi le chiffre d'affaires qu'elle réalise. Plus on est gros, plus on a de clients, plus on a tendance, effectivement, à mettre des garde-fous. La politique mise en place dépend de quoi ? Du poids économique, justement, de l'entreprise ?
Oui, parce que les grandes entreprises, finalement, partout dans le monde, ces 10-15 dernières années, elles ont été... entre guillemets, attaqués dans leur chaîne de valeur par des nouveaux acteurs de la technologie. En fait, les banques, enfin, tous les secteurs de l'économie ont été disruptés par des nouveaux acteurs de la technologie. Donc, ça, en réaction, ces grandes entreprises ont beaucoup investi dans la technologie, avec le corollaire qui était d'investir aussi massivement dans la cybersécurité. A contrario, les petites entreprises, elles ont cet usage que vous citiez finalement dans votre introduction de la technologie, hein, ne serait-ce que la technologie, j'allais dire, un peu personnelle, qui se confond aussi avec les frontières de l'entreprise, mais elles ont du mal à accéder à la compétence. Vous n'avez pas forcément, si vous êtes un dirigeant d'une entreprise de 10 personnes, vous n'avez pas forcément vocation à recruter un responsable sécurité. Donc cet accès à la compétence et même à la technologie, il est beaucoup plus compliqué pour les structures de petite taille.
C'est un paradoxe parce que la data qui doit être protégée, quelle que soit la taille de la société ou de l'administration, vous citiez les petits hôpitaux, elle est la même.
Elle est exactement la même. Et là, les conséquences des ransomware peuvent parfois être mortelles, en fait. Il y a des entreprises dans le monde qui font faillite simplement parce qu'on a crypté leurs données.
On a toujours tendance à penser que ça n'arrive qu'aux autres, mais les cybercriminels ont plus d'un tour dans leur sac. S'il y a une faille dans le dispositif, même le plus sophistiqué, ils vont la trouver et vont l'exploiter. Fuite de données, images dégradées vis-à-vis des clients, remise à niveau du système... L'entreprise ou l'organisation joue gros. Mais au fait, sait-elle vraiment évaluer les risques auxquels elle s'expose ? Les entreprises, quand on les interroge, répondent que le risque peut être évité. Philippe Trochot, pour autant, est-ce qu'elles sont nombreuses à faire le nécessaire en interne pour s'armer et aussi pour faire peut-être de la pédagogie ?
Alors c'est une vaste question. Comme vous l'avez dit, il faut prendre conscience que finalement, ceux qui attaquent, ils ont l'acuité visuelle de trouver l'aiguille dans des milliers de bottes de foin, en fait, hein, pour prendre une image. Un système qui n'est pas à jour, typiquement votre téléphone portable ou votre ordinateur, si vous ne le mettez pas à jour, en fait, il devient vulnérable. Donc, il y a un effort considérable qui consiste à mettre à jour régulièrement les systèmes parce qu'il y a des failles qui apparaissent, qu'on découvre au fur et à mesure. La plupart des incidents proviennent de mails que l'on ouvre et donc ça, c'est pas tellement de la technologie, c'est surtout de l'humain, du comportemental. Ces attaques, elles sont souvent très sophistiquées, donc il est difficile de déceler ces mails qui sont malveillants. Et donc, c'est un général d'armée qui disait finalement, la sécurité, c'est 80% de culture et 20% de technologie. Donc, on a certainement beaucoup à faire encore en termes d'éducation, de compréhension du risque. Et j'ai tendance à penser que finalement, comme on va être dans un monde de plus en plus digital, c'est une éducation au risque qui devrait commencer dès l'école, en fait.
Oui, parce que quand on regarde l'étude, 3/4 des personnes interrogées pensent que ce risque est évitable. Ça signifie réellement qu'il y a un défaut de vigilance.
Absolument, c'est ce qu'on voit quand on fait le post-mortem d'une attaque. Effectivement, dans 99% des cas, elle a été rendue possible parce qu'un système n'était pas à jour, en fait. En sachant que les gens qui attaquent, pour eux, c'est devenu un business mondial. Ils y mettent beaucoup d'argent. On voit très, très bien dans les enquêtes que c'est une parfaite translation de la délinquance physique vers le monde cyber. C'est beaucoup plus rentable. Vous n'avez quasiment pas besoin de personnel, en fait. Hein. C'est des ordinateurs qui travaillent à votre place. Et puis, à l'époque où vous attaquiez des banques, il fallait être dans la rue et vous étiez limité à une toute petite surface d'attaque. Là, vous avez par définition, quand vous êtes un attaquant, c'est-à-dire le crime organisé, vous avez immédiatement une couverture mondiale de vos attaques. Et ça reste pour ces gens-là des pratiques assez peu risquées parce que si vous avez la bonne idée d'attaquer depuis des pays dans lesquels il n'y a pas de convention juridique, paradoxalement, les recours sont très difficiles à exercer. Alors on le voit, ça progresse beaucoup en Europe. Et on peut voir aussi une certaine clémence même de la jurisprudence. En fait, les tribunaux voient encore... parfois, ces délinquants comme un peu des Robins des Bois de l'Internet. En fait.
Mais quand on regarde, une organisation sur trois seulement a changé ses habitudes. Alors pourquoi ce manque de réaction ou ce manque d'anticipation tout en ayant finalement conscience du risque ?
Alors, c'est une question qui est difficile, en fait, parce que ce n'est pas un phénomène visible. Et finalement, investir sur quelque chose que vous ne voyez pas, que vous ne comprenez pas, les neurospécialistes l'expliquent très bien, quelque chose qui fait peur, qu'on ne comprend pas, qui est complexe, en fait, on a plutôt, notre cerveau est bien fait, il a tendance à éliminer le sujet, en fait, grâce à notre inconscient, en fait.
Les bastions les mieux défendus, les citadelles dites imprenables sont parfois tombées par le passé, victimes de subterfuges quasi enfantins. Si les entreprises se croient à l'abri en se dotant des meilleurs systèmes de sécurité, elles doivent aussi être vigilantes car l'ennemi peut arriver par des chemins détournés, dissimulés. À l'image, souvenez-vous jadis, du cheval de Troie. Philippe Trochot, quand une organisation investit dans un système de sécurité, elle se pense évidemment à l'abri. Or, dans la chaîne d'approvisionnement, dans les échanges qu'elle a avec l'extérieur, elle peut faire entrer le loup dans la bergerie.
Absolument. Alors pour vous narrer une anecdote, c'est l'histoire de l'attaque d'un hôtel casino à Las Vegas. Vous parliez de cheval de Troie. Il y avait à l'entrée de cet hôtel un aquarium avec des poissons exotiques qui étaient très sensibles aux variations de température. Et donc, ils avaient, plutôt que de faire des relevés de température, ils avaient connecté un thermomètre dans cet aquarium qui était relié au réseau. Et en fait, cet hôtel casino était piraté par ce cheval de Troie qui était le thermomètre qui était connecté au réseau. Donc, effectivement, ce qu'on note là, c'est qu'au-delà du système informatique traditionnel, dans les entreprises, il y a de plus en plus d'objets connectés, en fait. Dans les bâtiments, il y a des capteurs partout qui sont connectés à des réseaux. C'est encore plus présent dans l'industrie, dans les entrepôts, dans les usines. On met des capteurs, des objets intelligents partout. Ça facilite considérablement les processus, mais ça se connecte. Et ces objets-là, ils sont parfois très compliqués à sécuriser. Tout simplement parce que parfois on ne les inventorie pas, donc on n'a pas un inventaire de ces objets et on n'en maîtrise pas forcément la conception.
Est-ce que les organisations, les entreprises dont on parle, ont compris que les menaces les plus graves finalement peuvent arriver par ce biais extérieur ? Ou est-ce que c'est encore à la marge ?
Alors, je dirais que dans l'industrie, ça fait longtemps en fait qu'on a compris qu'il fallait sécuriser ces objets. Dans les services ou dans le bâtiment, c'est plus compliqué parce qu'en fait, c'est souvent des objets qui sont reliés à un réseau, mais dont la gestion appartient entre guillemets à personne. Il y a beaucoup d'ascenseurs dans les grandes tours de la défense. Ces systèmes d'ascenseurs sont souvent gérés sous un système d'exploitation qui s'appelle Windows 98 de l'année éponyme. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut en parler. Donc c'est un système qui est complètement obsolète, mais qui va investir dans le système qui gère une cage d'ascenseur. Voilà, c'est toujours, c'est un peu comme avec votre syndic dans votre copropriété. Personne n'a envie d'investir dans ce genre de choses. Donc il y a beaucoup d'objets connectés qui en fait, pour lesquels on a une difficulté de périmètre de responsabilité et de coût de mise à jour en fait.
Et quels sont justement les moyens que les entreprises, les organisations peuvent employer aujourd'hui pour tenter de minimiser les risques liés aux tiers. Je pense aux relations fichiers, aux fichiers clients, aux fournisseurs, tout ce qui vient finalement de l'extérieur.
Beaucoup de grandes entreprises sont effectivement plutôt attaquées au travers de sous-traitants qui ont accès au système d'information que par l'entreprise elle-même. Donc c'est un sujet qui est complexe. Alors il y a 10-15 ans, on essayait de gérer ça au travers du juridique. On s'aperçoit que c'est pas forcément, il faut toujours des contrats qui font peser des responsabilités sur le sujet de la sécurité. Mais c'est pas la meilleure façon d'aider des petits sous-traitants. En fait, il faut leur apporter souvent de la compétence et justement là aussi de la pédagogie, voire des moyens pour sécuriser leur connexion. Donc de plus en plus, on voit que les grands donneurs d'ordre essayent de finalement d'aider très concrètement ces plus petites entreprises, ces sous-traitants à mieux se sécuriser.
Est-ce qu'on a clairement aujourd'hui identifié les points sensibles et comment est-ce qu'on peut renforcer la protection ?
Ce qu'on a encore du mal à faire sur ce sujet, c'est la détection en fait. On peut toujours se protéger. On est d'ailleurs, dans la plupart des entreprises, on a quand même un certain niveau de protection. C'est la détection qui est encore un peu le parent faible, en particulier quand il s'agit de petites entreprises. Et souvent, ce qu'on constate, c'est que même quand on a les mécanismes de détection, on n'a pas forcément les bons mécanismes de réaction. Donc si on prend là aussi une image, vous pouvez avoir des alarmes qui sonnent, mais il n'y a personne ni pour les entendre ou pour avoir le bon report d'alarme. Et même quand l'alarme sonne, on ne sait pas toujours qu'est-ce qu'il faut faire quand l'alarme a sonné en fait.
Quelle solution pour doter les entreprises d'une cotte de maille inviolable ? Et si la réponse était en plus de simplicité ? Philippe Trochot, pour mieux comprendre les risques auxquels elles sont exposées, le point de départ, et vous l'avez dit tout à l'heure, c'est l'information, L'information et sa circulation, c'est la clé, la pédagogie, apprendre et faire comprendre.
Absolument. La complexité des systèmes d'information, elle a été exponentielle en fait. On a mis de la technologie absolument partout dans les entreprises. On gère assez mal de manière générale le cycle de vie de l'information dans une entreprise. On a du mal à archiver, voire parfois à détruire de la donnée. Donc on a de plus en plus de données et on a du mal à localiser la donnée. En fait, il y avait une précédente enquête, on notait que les dirigeants considèrent que le premier actif de leur entreprise, c'est la donnée, ce qui est très à la mode. Et ces mêmes dirigeants répondaient à 80% qu'ils ne savaient pas où étaient les données les plus critiques. Donc on peut se dire qu'en fait, il faut arriver à une saine gestion des risques, c'est-à-dire comprendre quelles sont les données les plus critiques de l'entreprise, les systèmes les plus critiques. Et lorsqu'on a fait cet inventaire, donc c'est-à-dire qu'on a une vision des risques, alors on peut faire varier les niveaux de sécurité et se focaliser sur un niveau de sécurité, j'allais dire parfois très élevé, sur les systèmes les plus critiques. Mais tout protéger au même niveau, c'est, j'allais dire, financièrement, humainement impossible en fait.
Ça veut dire qu'il faut aussi, pour que cette information circule, mettre des bonnes pratiques en place, les partager, qu'elles deviennent une sorte de réflexe en interne ?
Absolument. C'est pas l'affaire d'un responsable sécurité. On l'a dit, c'est beaucoup de comportement, beaucoup d'hygiène en matière d'informatique. Donc ça doit être une culture de sécurité qui se déploie en même temps que la technologie. Et c'est là où c'est finalement le plus compliqué parce qu'on touche à l'humain, on touche au comportement.
Et c'est peut-être par l'exemple que ça passe, parce que quand on regarde les résultats de cette étude, on s'aperçoit que les entreprises qui sont les plus performantes en termes de cybersécurité sont aussi celles qui ont rationalisé les choses en interne.
On a eu tendance en fait à développer des nouveaux systèmes en plus des systèmes de gestion, on va dire, un peu usuels ou traditionnels de l'entreprise. Donc effectivement, au vu de ce qu'on a développé en matière de complexité de système, il y a beaucoup d'entreprises, celles qui sont les plus matures en matière de cybersécurité, qui se disent « mais finalement, il faut d'abord que je commence par rationaliser mon système d'information. C'est la seule voie possible pour atteindre un niveau de complexité qui est humainement et financièrement gérable. »
Le PDG aussi a son rôle à jouer. Ça, c'est important et ça ressort dans l'étude.
Les dirigeants ont un rôle majeur à jouer. D'abord, je pense en termes d'exemplarité. Si parce que vous êtes dirigeant, que vous partez en week-end ou peu importe, vous vous envoyez des documents sur votre email perso parce que ça sera plus facile à consulter dans le train, vous êtes vous-même une faille. Et ça arrive tous les jours. le dirigeant, il est aussi là pour attirer les talents, en fait, et montrer qu'il y a une vision dans l'entreprise sur ces sujets-là. Dans la cybersécurité, comme dans beaucoup de secteurs liés à la technologie, on est dans une guerre de talents. Pour citer quelques ordres de grandeur, on sait aux États-Unis, par exemple, qu'il manque à peu près 500 000 de professionnels sur le marché de la cybersécurité. La Commission européenne a fait ses propres calculs. Elle considère qu'en 2025, on manquera dans le monde entier 3 millions de professionnels. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire pour acquérir les bons talents en cybersécurité.
Ne pas être un colosse au pied d'argile, c'est le défi finalement pour les organisations. Aujourd'hui, on le voit, les villes, les États, les plus grosses sociétés de certains pays se font pirater. Il va donc falloir augmenter d'un cran encore le niveau de sécurité. Et évidemment, cela a un prix. Philippe Trouchot, question. Aujourd'hui, quel est le budget que consacrent les entreprises à la lutte contre le piratage informatique ?
Les entreprises les plus matures, et on voit d'ailleurs dans nos enquêtes que, comme par hasard, elles sont plutôt les mieux protégées, elles dépensent entre 10 et 15% de leur budget informatique dans la cybersécurité. Ça, c'est pour les plus matures et c'est souvent plutôt des grandes entreprises. Et finalement, à la fin, ça peut faire plusieurs centaines de millions d'euros d'investissement par an.
Au regard des pertes liées pourtant au piratage, c'est un investissement qui paraît indispensable. Dans le cas contraire, ça génère des pertes, voire des pertes colossales d'argent. En cas de hacking, on peut tout perdre, vous le disiez tout à l'heure. Est-ce que ce risque-là, cette balance-là, les dirigeants la font dans leur tête ?
Je pense qu'ils le font, mais je pense que l'analyse, elle doit même aller au-delà, parce que la multiplication des incidents de cybersécurité... Les craintes qu'on peut avoir dans la technologie, en fait, ça implique quelque chose qui est finalement presque encore plus vital pour les entreprises, c'est que les clients perdent confiance, en fait. Donc, c'est extrêmement marqué dans beaucoup d'enquêtes. En France, vous avez 70% des Français qui n'ont plus confiance dans le digital. Pour vous donner un exemple, Les Google Cars, il y a 5 ans, c'était considéré comme des bijoux de technologie, y compris en Californie. Aujourd'hui, Google a du mal à faire rouler ces Google Cars parce qu'on les caillasse et on leur crève les pneus. Et donc, il y a ce phénomène qui est un amalgame, encore une fois, c'est pas lié qu'à la cybersécurité. Mais on voit naître, notamment dans les pays à économie assez développée, ces phénomènes de rejet de la technologie.
Le plus difficile, finalement, si je vous suis, c'est d'installer une culture de cybersécurité et peut-être aussi de la mettre en phase avec les objectifs de la société, de l'entreprise ou de l'organisation.
Le sujet de la cybersécurité, c'est un sujet de confiance par rapport aux clients, par rapport aux employés et par rapport aux investisseurs. Donc, il ne faut pas le voir seulement comme un investissement technologique. Ça attaque finalement le capital de marque de l'entreprise. Et ça, on le voit très bien. Si vous êtes une entreprise cotée, notamment si vous avez tendance à multiplier les incidents de cybersécurité, vous perdez une partie de la confiance des investisseurs parce que les equity analysts savent que des crises, il y en aura d'autres. Si vous ne montrez pas votre capacité en tant qu'entreprise et dirigeant à gérer des crises, vous enregistrez dans votre cours de bourse de manière durable un effet négatif d'à peu près -20-22%, ce qui est ramené encore une fois à la capitalisation boursière de toutes les entreprises. Ça fait à la fin beaucoup, beaucoup d'argent.
Donc, et d'ailleurs les sociétés le réclament, il faut de l'apprentissage, de l'éducation si on veut pouvoir sécuriser le système à l'horizon 2030. L'effort doit aussi porter sur la formation, finalement. La formation des équipes, mais aussi la formation en amont, la création de filières.
Les mécanismes traditionnels de formation, ça ne fonctionne pas en matière de cybersécurité. Là, c'est le même phénomène qui est très bien décrit par les neurospécialistes. Ça fait peur, c'est complexe, donc votre cerveau n'est pas appétant à se pencher sur ce genre de sujet. Donc la seule chose qu'on voit marcher en matière d'éducation, c'est ce qu'on appelle le serious gaming. En fait, il faut créer une appétence au sujet, et ça, on arrive à le faire que grâce à du jeu. En fait. Donc typiquement, nous, on a développé un serious game lié à la cybersécurité, qui s'appelle Game of Threat. Et là, on voit qu'on arrive à faire comprendre un certain nombre de mécanismes de sécurité et à finalement faire en sorte que les gens se les approprient. Je reviens sur la deuxième partie de votre question sur les filières. On a besoin de développer nos filières et ça tombe bien, la France est un territoire d'écoles d'ingénieurs. Nos écoles d'ingénieurs les plus prestigieuses sont plutôt issues d'écoles de guerre, donc elles ont déjà une culture de sécurité. Donc en termes de système éducatif, on a les meilleurs atouts dans le monde pour le faire. Encore faut-il réussir à massifier ces filières. Le point qui est majeur pour moi, c'est la féminisation de ces filières. En fait, c'est une catastrophe. En fait, vous regardez la moyenne des écoles d'ingénieurs technologiques, ça, c'est à peine 5 à 8% de femmes. Je pense que c'est extrêmement important dans la cybersécurité parce que les hommes ont un côté très va-t-en-guerre sur le sujet.
Avec la crise sanitaire et le télétravail mis en place, le nombre d'attaques a doublé ces deux dernières années. Les entreprises ont parfois dû se tourner en urgence vers des spécialistes. Or, c'est un travail permanent qui doit être fait pour que la traque soit efficace. Alors, doit-on se doter d'outils européens mieux sécurisés ? Est-il temps de mettre en place une cartographie des risques ? Certains experts y sont favorables. Quelques chiffres vont peut-être finir de les convaincre. L'industrie de la cybersécurité pesait 176 milliards de dollars l'année dernière. On estime qu'elle aura atteint au moins les 403 milliards dans 6 ans. Merci, Philippe Truchot.
Merci beaucoup Raphaël pour ce très bel entretien.
Cette étude et ses détails sont à retrouver sur pwc.fr.